Bonjour et bienvenue dans le podcast Jeunesse. Donc je suis Daniel.
Et moi c'est Popov, ou Dunker sur certains forums.
Donc nous allons vous présenter une théorie, dont le nom est GNS, vous commencez à vous en douter, qui a été en fait initialement présentée par Ron Edwards du forum The Forge. Et en fait, la théorie que voilà vous exposer est en fait l'interprétation que nous, donc Daniel et Popov, en avons tiré, donc telle que nous la comprenons et telle que nous la trouvons intéressante.
Ce qui fait que ça peut différer de la théorie originelle de Ron lui-même.
Voilà. Donc cette théorie, elle a plusieurs intérêts, parce qu'on ne va pas vous vendre quelque chose qui ne vous servirait strictement à rien.
Ouais, donc pourquoi on va faire cette théorie ?
C'est exactement ça. Donc, si on va développer cette théorie, c'est qu'elle peut vous aider dans la conception des jeux. Donc, tout simplement, en vous donnant des indications sur quel système choisir et donc quelle technique introduire ou pas dans votre système. Donc, par exemple, à quel point le jeu que vous concevez doit-il prévoir des options accessibles pour le joueur lorsque son personnage est impliqué dans un combat. Est-ce que, par exemple, lorsque je construis mon système, j'inclus ou non un système de points de destinée ?
Donc cette théorie peut aussi servir plus concrètement aux joueurs dans une partie, à comprendre, et puis éventuellement résoudre, ce serait quand même mieux, les conflits qui concernent la pratique du JDR, qui peuvent survenir entre les participants d'une partie, donc les participants, c'est-à-dire les joueurs et le MJ compris, sans aucune distinction.
Donc par exemple, on peut se demander si les joueurs donc, ont le droit de céder en discutant hors jeu des actions de leur personnage.
Ce qu'on appelle le méta-jeu, comme évidemment.
Exactement, qui peut être critiqué. On peut également se demander si le MJ a le droit de tuer mon personnage sur un simple jet de dés, malchanceux, hein, contre un PNJ mineur, le gobelin qui vous barrerait la route de votre brave paladin.
Le troisième point, donc, pourquoi ça peut aider cette théorie, c'est pour en finir avec les synecdoques, qui sont beaucoup trop nombreuses. La synecdoque, qu'est-ce que c'est ? C'est exclure, en posant la définition du JDR, des pratiques ou des visions d'autres personnes qu'elles peuvent avoir, donc qui sont pour elles tout à fait justifiées, mais en posant cette définition, on dit non, ce que tu fais n'est pas du JDR. Par exemple, dans le JDR, il faut toujours respecter l'interprétation de son personnage. Quand on dit ça, on fait une synecdoque. Ou encore, un bon MJ se fiche du résultat des dés, il peut toujours interpréter derrière et faire que l'action est intéressante. Ça, c'est aussi une synecdoque.
Donc voilà, le problème de ces énoncés, c'est que de cette manière-là, en fait, ils excluent des pratiques qui peuvent être tout à fait valables pour le jeu de rôle. Donc, on va rajouter une petite remarque importante, c'est que la théorie que nous présentons ne juge pas des motivations de jeu et elle ne décerne pas la récompense entre le bon joueur et le mauvais joueur. Ce concept-là n'existe pas et au contraire, elle essaie de montrer que toutes les pratiques de jeu de rôle peuvent être valables. Ce qui est important, c'est que les joueurs se mettent d'accord sur les pratiques qu'ils utilisent. Et ce qui est très important aussi, c'est que cette théorie n'étiquette ni les joueurs, et également plus important, elle n'étiquette pas non plus les jeux.
Un jeu n'est pas, ça n'a pas en soi une étiquette qui est posée dessus, quelque chose qui force une telle pratique ou une autre, de facilité, mais ça ne force pas. Donc ça n'étiquette rien, sauf les pratiques, un petit peu.
Bien, alors nous allons maintenant commencer à vous présenter la théorie. Mais avant toute chose, il va falloir en fait qu'on définisse les termes que nous allons employer.
Quelques termes.
Voilà, les termes importants. Et ça va également passer par la redéfinition de certains termes que vous avez l'habitude d'utiliser. Mais là, on va préciser dans quel contexte et avec quelle signification nous allons les employer.
Donc pour commencer, on va définir ce qu'est le jeu de rôle. Qu'est-ce que le jeu de rôle ? Et donc justement, cette définition-là a un gros problème, c'est que très souvent, elle met en cause des synecdoques. Donc pour éviter toute synecdoque, on va vraiment faire une définition large, vous allez voir. Le jeu de rôle est une fiction partagée. Alors qu'est-ce qu'on entend par fiction ? Par fiction, c'est un espace imaginaire dynamique. Donc, c'est un espace sur lequel les choses se passent. C'est imaginaire puisque ce n'est pas représenté. On ne fait pas une peinture commune, une écriture de roman commune. c'est imaginaire, chacun a sa vision dans sa tête et c'est pas forcément exactement la même chose qu'avec les autres. Et c'est dynamique, puisque le processus compte plus que le résultat. C'est le fait de faire du jeu de rôle qui compte et pas le résultat de la partie, ce qui en ressort, qui est le plus important. Fiction partagée, donc pourquoi partagée? Puisqu'il y a des liens de cohérence qui sont assurés par ce que disent les participants, même si c'est imaginé. Les joueurs et les MJ, donc, tissent des liens de cohérence entre leurs propres visions pour se coordonner. Et que quand quelqu'un dit quelque chose, ce n'est pas, ça s'intègre dans ce qu'ont les autres en tête.
Donc cet espace imaginaire dynamique, partagé, ce concept qui a été développé notamment dans la théorie GNS par Ron Edwards, a été contesté par d'autres. Vous pouvez peut-être également ne pas être d'accord avec cela. Alors un contre-exemple, pour ceux qui douteraient de l'existence de cet espace imaginaire dynamique partagé, c'est le petit énoncé que je vais suivre, qui serait celui d'une partie où justement ce n'est pas respecté. Alors ça donnerait soudain le personnage de Bob essaye de dégainer plus vite que Dan regarde la mort qui tue dans les rues de Laredo, tandis que Anne tente de sortir son vaisseau spatial d'un champ d'astéroïdes et qu'elle appelle Bob pour qu'il vise l'ennemi qui lui colle aux fesses pendant que Jim voit tous Bobond attaquer un dragon. Alors, typiquement, ici, il n'y a pas d'espace imaginaire commun, c'est-à-dire un ensemble convenu d'événements, d'éléments d'univers et d'actions des personnages qui interagissent entre elles. Et donc du coup, cette scène ne fonctionne pas, les gens ne peuvent pas se représenter la même scène si tout le monde veut y mettre ce qu'il veut. Il faut qu'il y ait une convention, sinon on ne joue pas réellement ça.
On n'est pas au même jeu, on n'est pas dans la même partie. Bon, ensuite nous allons définir le contrat social. Le contrat social est un élément critique du jeu de rôle. Qu'est-ce que c'est? C'est un ensemble de règles explicites et implicites qui régissent le déroulement de la partie. Quand on parle de règles, donc, évidemment, on étend le sens grandement, puisque ça ne prend pas en compte que les règles du jeu de rôle, mais en plus de ça, pas seulement les règles qui régissent la partie du jeu de rôle elle-même, mais son déroulement. Ce qui veut dire qu'il y a certaines choses qui n'ont rien à voir avec le jeu de rôle dans la partie. Par exemple, quel jour on se retrouve pour jouer, ça fait partie du contrat social, mais ça n'a rien à voir avec la partie. Donc l'univers jouton, ça commence à avoir un gros rapport avec la partie elle-même. Et enfin, quel système de règles utilise-t-on? Les règles chiffrées, les lancers de dés, quelles sont les pratiques interdites, tout ça c'est des règles. Par exemple, refuser la quête du début d'aventure, c'est quelque chose qui est interdit par les règles du contrat social, très souvent dans le jeu de rôle. Donc tout ça c'est le contrat social, et c'est très large. Donc.
Exactement, donc on a bien insisté sur cette idée de contrat social. Donc en gros, c'est l'ensemble des éléments sur lesquels vous vous êtes mis d'accord avec vos partenaires de jeu pour effectuer votre partie. Voilà. Donc ça, c'est la base. Cette base, donc, dans le contrat social, donc cette base, cette idée de base du contrat social, maintenant, on va s'intéresser à un de ces aspects, qui est l'aspect qui va diriger la pratique du jeu de rôle en excluant, donc, tous les problèmes du style « quel jour on joue », qui fait partie du contrat social, « pourquoi je suis venu pour m'amuser, pour draguer la copine du meuf », voilà. Ça, ça fait partie du contrat social. En revanche, ça ne rentre pas dans un des aspects du contrat social qui sont les démarches créatives. Donc les démarches créatives, ça va être plus précisément comment faire du jeu de rôle. Ça va être un guide des choix faits dans le cadre de la fiction par les joueurs. Donc ce n'est bien qu'une partie du contrat social. Et il est assez important donc de se mettre d'accord, comme tous les autres éléments du contrat social, sauf que justement, les joueurs ayant l'habitude de ne pas du tout discuter de ce problème de démarche créative, du coup ils ne s'en rendent pas compte qu'ils ne sont pas d'accord sur la manière dont ils veulent faire du jeu de rôle. Et c'est souvent là que les problèmes arrivent, les problèmes que l'on citait en exemple dans l'introduction.
Alors, dans les démarches créatives, il y a trois grandes motivations qu'on peut dégager, trois ensembles de motivations, c'est-à-dire des motivations principales qui après peuvent se décliner en plusieurs choses différentes, mais qui sont cohérentes chacune entre elles. Tout d'abord le ludisme. Ce qu'on appelle le ludisme, qu'est-ce que c'est dans la théorie GNS? Alors il faut rappeler quelque chose par rapport au fait que ça s'appelle GNS. Le G correspond à gamism en anglais, donc le ludisme. Ça a été traduit par ludisme. Donc on va parler de ludisme, simulationnisme et narrativisme. En anglais c'est donc gamism, narrativism, simulationnisme, GNS.
Et ça fait GNS, waouh!
Le ludisme, qu'est-ce que c'est? Une des grandes motivations, c'est la compétition entre les participants. Donc, compétition, ça veut dire qu'on compare et qu'on essaie de faire mieux que les autres sur les compétences. Ça peut être des compétences tactiques, ça peut être des compétences d'interprétation de son personnage, ça peut être des résolutions d'énigmes, résolutions d'enquêtes. Ça peut être une compétence entre les joueurs, mais pas entre les personnages, par exemple, faire mieux que les autres dans le cadre d'une partie de donjon, alors que nos personnages agissent de concert pour réussir le donjon. Ça peut être aussi l'idée de se dépasser. C'est pas forcément une compétition contre les autres, mais ça peut être une compétition contre soi, c'est-à-dire faire du mieux qu'on peut et être content de soi, comme dans une compétition sportive.
Donc alors là, pour illustrer donc, cette motivation ludiste, donc on peut citer plusieurs exemples. Donc par exemple, une motivation ludiste, ça peut être amasser plus de richesses que ses coéquipiers, dans un donjon par exemple. Ça peut être, donc un autre exemple, c'est atteindre plus rapidement les niveaux supérieurs. Hein, vous faites un peu la course pour savoir qui atteindra le premier le niveau 10, le niveau 20, etc. Dans un domaine apparemment différent, ça peut être à réussir à contrecarrer les plans du grand méchant. Donc voilà, dans un
univers super héros par exemple.
Exactement. Donc voilà, le mage est typiquement à préparer un ensemble donc
d'intrigues, de péripéties.
Et puis vous, brillamment, eh bien, vous trouvez comment les résoudre. Vous avez les bonnes idées. Vous êtes dans une motivation ludiste. Un autre type de motivation ludiste, donc toujours pour illustrer cette motivation, même qui est assez large, hein, on commence un peu à vous rendre compte, j'espère, c'est également résoudre une enquête. Donc il faut bien voir que lorsque vous êtes dans un scénario d'enquête et que le but est de le résoudre et qu'il y a possibilité de rater l'enquête, ben, voilà, vous êtes dans une motivation ludiste, est-ce que je vais arriver ou pas à interpréter les indices, comprendre comment ils s'enchaînent et s'emboîtent les uns avec les autres, poser les bonnes questions, ne pas éliminer les mauvais PNJ. Enfin, dernière motivation ludiste, ça peut être vaincre son adversaire au combat en trouvant les bonnes techniques, les bonnes associations de compétences. Et voilà, tout ça, c'est des exemples de motivation ludiste.
Voilà, à des niveaux différents.
Exactement, dans des univers différents, dans des jeux différents. Et c'est là que ce qu'on va dire et vraiment répéter, c'est que une motivation n'est pas collée à un jeu. Hein. Dans un jeu, on va trouver toutes sortes de motivations. Voilà. Et
alors, on a parlé aussi d'interprétation. Le ludiste, ça peut être interpréter mieux que les autres, ou interpréter tout simplement au mieux qu'on peut, donc vouloir bien interpréter son personnage, et essayer de faire une prestation que les autres applaudissent. La grande question du ludisme, qu'on se pose donc, quand on a une motivation ludiste, c'est qu'est-ce qui est optimal dans une situation ? On se demande qu'est-ce que je peux faire de mieux, et on réfléchit donc pour se dépasser.
Bien, donc voilà un petit peu donc, ce que l'on pouvait dire donc, rapidement, hein, parce que le sujet est vaste, sur la motivation ludiste. Donc maintenant, la deuxième motivation que nous allons vous présenter, c'est la motivation donc, simulationniste, et donc le simulationnisme. Alors, là, on entre déjà un petit peu, on marche un peu sur des œufs, puisque lorsque je vous parle de simulationnisme et de simulationniste, ça va vous faire penser à des choses. Ça va vous faire penser donc à des choses qui ne sont pas exactement celles que l'on cherche à vous faire dire. Donc, ça n'a rien à voir avec la complexité, est-ce que j'utilise plus ou moins de dés, hein. Ça on l'entend beaucoup. C'est pas forcément une mauvaise définition, mais c'est pas celle que nous on utilise. Donc nous, quand on parle donc de simulationnisme, c'est qu'on se focalise sur un des aspects de l'exploration. Alors là, j'utilisais le mot exploration.
Et donc, il va falloir le définir.
Il va falloir le définir.
Qu'est-ce que l'exploration ? En fait, l'exploration, c'est quelque chose qu'on fait forcément et en permanence quand on fait du jeu de rôle, puisque c'est imaginer les éléments qui constituent la fiction. Donc, à partir du moment où on les imagine, on peut les explorer, et donc le mot colle bien. Et le simulationniste, qu'est-ce que c'est ? Se focaliser sur cette exploration elle-même, donc sans manipuler ostensiblement les éléments, sans, comme dans le ludisme, mettre ses propres motivations à travers celles de son personnage. Non, là, on explore la fiction, on les imagine, comme si on traversait le monde sans y toucher.
Alors maintenant, ce qu'on va préciser, c'est quels sont ces éléments constitutifs de la fiction. En fait, on voit qu'on peut les diviser en fait en 5 éléments différents qui sont le système, la couleur, l'univers, le personnage et la situation. Donc maintenant, en fait, on va prendre un peu de temps pour définir chacun de ces termes, pour que donc ce soit bien clair.
Puisque le simulationnisme s'attache beaucoup aux éléments, même si dans toute partie de rôle, qu'elle soit ludiste ou narrativiste, ils sont explorés.
Ils sont présents, effectivement. Puisqu'effectivement, toute partie a un univers, des personnages, des situations qui sont régies par un système, et généralement avec une couleur, donc... Nous allons revenir sur ce que c'est. Alors, nous allons commencer par peut-être ce qu'il y a de moins évident, c'est qu'est-ce que l'on entend par système. Donc, par système, on entend le moyen par lequel les participants, donc le joueur, les joueurs et le maître de jeu, se mettent d'accord sur les événements dans la fiction.
Quand quelqu'un annonce quelque chose, il faut bien des règles pour savoir si effectivement ça se passe dans la fiction ou pas, si on peut l'inclure dans l'imaginaire collectif. Et donc, il y a des le système est un ensemble de techniques qui régissent la pratique du jeu de rôle dans le but de satisfaire donc, la démarche créative. Donc si on explore ce système, le but c'est de satisfaire donc, le simulationnisme. Donc des exemples de techniques donc, qui font un système, une technique peut être, et souvent est, le MJ décide des actions des PNJ, et les joueurs décident des actions des PJ. C'est une technique, c'est un système, c'est pas obligatoire, et c'est donc une règle sur laquelle les participants sont mis d'accord à l'avance.
Toujours pareil dans le contrat social. Donc, une autre type de technique, c'est pour résoudre telle action, jeter un D6 plus compétence versus difficulté pour donc la résoudre. Donc voilà, ça c'est un autre type de technique qui peut être utilisé ou pas, puisque bon, vous savez peut-être que dans un jeu de rôle, on n'a pas forcément besoin d'un CDD. Existe des systèmes diceless, donc si je prends la peine d'inclure cette technique, c'est pour une raison, on verra pourquoi. En tout cas, là ce qu'on dit, c'est que c'est un exemple de technique qui peut être utilisé. Alors un exemple de technique non chiffrée, c'est par exemple que les joueurs ne puissent pas utiliser la parole pour faire communiquer un personnage qui serait bâillonné dans la fiction. Donc voilà, ça c'est une technique que l'on peut utiliser lors de la pratique du jeu de rôle. Donc vous voyez bien que les techniques, c'est quand même très varié, hein, ça concerne pas mal de choses. Il y a donc ce qui est test, ce qui va être chiffré, quantitatif, le nombre de lancers de dés, les points, tout ça, et également ce qui va être dit, ce qu'on a le droit de faire.
C'est des règles qui sont souvent tacites.
Donc, lorsque maintenant on revient à l'idée donc de simulationnisme de système, donc qu'est-ce que c'est que se focaliser sur le système,
explorer le système,
et bien c'est s'intéresser effectivement voilà, à l'exploration du système. Donc, eh bien, typiquement, on va reprendre le dernier exemple que j'utilisais avec le fait que les joueurs ne puissent pas utiliser la parole pour faire communiquer un personnage bâillonné. Eh bien, peut-être que c'est ça qui va vous intéresser dans votre pratique du jeu. C'est-à-dire que vous allez vraiment dire, tiens, c'est intéressant, comment on y arriverait, comment ce serait possible de le faire.
Avec des gestes.
Voilà, est-ce que c'est intéressant ou pas, est-ce que ça marche, voilà. Donc là, vous faites du simulation de système lorsque votre intérêt est de voir comment cette technique peut être utilisée.
On peut aussi s'intéresser, donc, par exemple, à la manière dont le système permet de blesser un vampire avec différentes armes. Comment donc, le système modélise les effets des blessures, les résistances du vampire, etc. Et ça peut être donc un intérêt d'explorer en fait, cette façon qu'a le système de modéliser les choses. On peut aussi, à Ars Magica, voir les sorts qu'il est possible de concevoir avec son personnage mage, explorer aux limites donc, du système, puisqu'en plus ce système-là est très... Des bornes bien définies, donc on peut effectivement aller voir les limites, voir un peu tout ce qu'il est possible de faire, c'est explorer le système, puisqu'on se fiche de ce que le sort fera dans la fiction, ce qui compte c'est comment on est capable de faire, et ce qu'on est capable de faire surtout. En fait, tout ça, explorer le système, c'est intéressant surtout quand le système est original, on a envie, quand on explore le système, donc d'avoir des choses originales, de découvrir des nouvelles choses. Il y a beaucoup de jeux qui donc introduisent des nouvelles manières de résoudre les événements, en mettant d'accord les joueurs, des jeux d'ailleurs qui n'utilisent pas le MJ, qui sont beaucoup de techniques qui existent. Les explorer, c'est donc se focaliser dessus et voir comment elles sont intéressantes.
Donc voilà. Donc on a détaillé le simulationnisme de système. Maintenant on va s'intéresser donc au simulationnisme de couleur. Donc qu'est-ce que l'on entend par couleur déjà en premier lieu? Eh bien la couleur, ça va être les détails et les nuances qui ne font pas évoluer la fiction. Donc, vous décrivez que votre cape est rouge, et bien bon, voilà, Là, clairement, c'est un détail qui n'a pas normalement une grande importance dans la fiction. Cela rentre dans la couleur. Dans la couleur, il y a également la création d'une ambiance, une ambiance horrifique, comique, par exemple. Et il y a également un phénomène, une création d'émotions, par exemple.
Faire peur.
Faire peur, exactement, dans un scénario Cthulhu, vous arrivez à faire peur à vos joueurs. Voilà.
Verser une larme dans une romance
exactement,
dramatique.
Exactement, là, donc une création d'immersion qui est possible. Tous ces trucs-là rentrent dans la couleur. Eh bien, le simulationnisme donc, de couleur, eh bien, simplement, ça va être s'intéresser à l'exploration de cet élément-là, de la fiction.
Se focaliser dessus, donc.
Se focaliser dessus. Donc, on reprend notre exemple d'ambiance horrifique. Eh bien, on va se focaliser voilà, sur les détails qui vont être intéressants à utiliser donc, pour rendre l'ambiance. Et voilà, donc, le reste est un peu moins important. Vous oubliez un petit peu l'histoire, vous oubliez un peu le fait que vos personnages arrivent ou pas à réussir leurs actions. Voilà, là, ce qui nous intéresse, c'est vraiment arriver à mettre en place cette ambiance. Ça peut être complètement l'inverse, une ambiance comique. Et là, bon, par exemple, dans ce joueur
qui, tout,
exactement,
vous avez envie de vous éclater.
Et vous avez envie de rire. Et là, ce qui nous intéresse, c'est produire du rire. Donc, tout va passer par l'exploration, effectivement, par des ressorts comiques, comment je vais pouvoir mettre une blague intéressante ici, comment je... Voilà. Un autre type, voilà, ben, c'est par exemple, lorsque vous racontez toutes les mimiques de votre personnage lorsqu'il parle, ben là, vous faites pareil, vous faites de l'exploration de couleurs, parce que vraiment, vous voulez détailler... vraiment précisément donc ces détails
votre personnage donc pour qu'on se le représente plus facilement
exactement
qu'on s'immerge dans cet univers où votre personnage existe donc dès qu'on détaille dès qu'on nuance dès qu'on fait quelque chose qui crée une ambiance une émotion qu'on sent quelque chose qui est plus réel dans ce cas on fait l'immersion du simulationnisme de couleurs
voilà. Dès que ça devient votre principale priorité
c'est ça.
Vous êtes là-dedans
il y a ensuite l'univers comme élément pas le système la couleur l'univers. L'univers, qu'est-ce que c'est ? L'univers est un des éléments, donc c'est l'univers, en gros, les aspects temporels, géographiques, culturels. On a l'histoire du monde, les politiques, la politique, les climats, les mœurs, toutes les cultures qu'il peut y avoir dans votre monde. Tout ça constitue l'univers. Et on peut donc s'y intéresser en faisant du simulationnisme d'univers. Par exemple, on peut s'intéresser à l'origine des vampires, quand on joue à vampire, voir d'où viennent ces créatures. Dans l'univers, par son personnage. On peut se pencher sur le mode de vie des elfes sylvains dans un jeu médiéval fantastique et faire une campagne qui tourne autour de ça, sur le mode de vie, leur politique, leurs intrigues. On peut suivre les intrigues de cour sous le roi Arthur, s'intéresser à comment se mettre en place des intrigues historiques, semi-historiques, dans votre monde.
Donc voilà, donc, ici plusieurs exemples donc, de simulation d'univers. Donc maintenant, on a parlé de la simulation de système, simulation de couleurs, simulationnisme d'univers. Maintenant, on va voir là du simulationnisme de situation. Alors, bon, situation, assez rapidement, donc la définition, c'est simplement le lien entre les éléments qui provoquent un déséquilibre ou un conflit. Bon, en gros, ce sont les événements qui surviennent.
Les événements intéressants, pertinents, c'est ça, les événements pertinents. Le fait que quelque chose se passe dans la ville mais que ça n'a aucun incidence sur les personnages, par exemple, ce n'est pas la situation puisque ce n'est pas ce qui intéresse dans la partie du jeu de rôle, c'est la couleur, généralement. La situation, c'est vraiment le lien donc, qui lie les éléments en particulier, les personnages, et qui provoque des choses intéressantes, des équilibres, conflits. Donc on peut donner des exemples de situations, un combat, c'est une situation, il y a un conflit, un déséquilibre, une poursuite, un débat, tout ça ce sont des situations. Mais à plus grande échelle aussi, on peut avoir comme situation la guerre de l'anneau sur les terres du milieu. Une situation peut être le réveil des anciens, le crash de la matrice, à Shadowrun par exemple. Tout ça ce sont des situations, plus ou moins grande échelle. Évidemment, une situation à large échelle contient des petites situations, souvent dans lesquelles les joueurs vont impliquer directement. Mais tout ça, donc, ce sont des situations. Qu'est-ce que c'est explorer une situation, donc faire du simulationnisme de situation ? C'est par exemple se poser la question « qu'est-ce que le prince vampire exige de moi ?» et le jouer, l'explorer.
Oui, donc c'est par exemple un autre type donc, de simulationnisme de situation, c'est se demander bah, « qu'est-ce qui se passerait si mon super-héros explose un immeuble, maintenant ?» Voilà, il arrive, il choisit un immeuble, il explose. Et alors, qu'est-ce qui va se passer? Quelles vont être les conséquences? Voilà, si je m'intéresse à ça, bah, je fais du simulationnisme de situation. Enfin, un autre exemple qu'on peut citer, c'est développé sur donc, les conséquences.
Un exemple générique.
Voilà.
Dès qu'on veut développer sur les conséquences de l'action d'un PJ, de notre personnage ou de n'importe quoi, quand on développe les conséquences, c'est qu'on fait une simulation de situation. On s'intéresse donc à ce que ça peut donner de faire ça ou ça.
Voilà. Exactement. Voilà. Donc, le dernier élément. Du jeu, ce sont, on a commencé un petit peu à en parler, le personnage. Donc le personnage, on pourrait le définir, vous voyez quand même à peu près bien ce que c'est, on pourrait le définir comme une entité fictive agissant.
Voilà, quand elle agit elle-même, c'est un personnage.
Voilà,
c'est
donc, agit, ça.
Que ce soit un animal, un dieu ou...
Ou un humain.
Ou un humain.
Ils ont le droit d'être joués aussi. Donc voilà, donc le simulationnisme de personnage, c'est donc focalisé sur l'exploration du personnage donc tel que vous l'avez posé. Donc des exemples donc de questionnements qui sont typiquement du simulationnisme de personnage, c'est que ressent mon personnage face à la mort de l'être aimé dans la partie. Ça fait quoi de jouer un schizophrène? Donc et comment je vais le faire? Mon personnage joueur peut-il être à la fois fidèle et héroïque? Voilà. Donc là, vous explorez votre personnage, vous allez chercher dans les tréfonds de sa psychologie, voilà. Tout ça, c'est, parce que c'est ce qui vous intéresse, c'est du simulationnisme de personnage quand vous focalisez là-dessus.
Et donc, le simulationnisme, la question importante donc, qu'on doit se poser quand on veut faire du simulationnisme, c'est que va-t-on explorer? Quand on choisit ce qu'on va explorer et que c'est notre seule motivation, on fait du simulationnisme. Si c'est notre seule motivation, ça veut aussi dire que les actions qui seront faites dans le jeu ne seront pas modifiés par une autre motivation, ne seront pas donc altérés. On laisse la cohérence du monde se faire d'elle-même, et tout ce qu'on fait, c'est le parcourir. Donc qu'est-ce qu'on va explorer? Quand on veut interpréter son personnage de façon simulationniste, on va l'interpréter de façon la plus proche de ce qu'on pense être le personnage, de ce qu'on veut qu'il soit, et donc on explore le personnage sans le toucher, l'altérer pour d'autres motivations. Donc que va-t-on explorer? C'est la question importante.
Enfin, donc, nous avons vu le G, qui était ludisme, parce que c'était gamisme, le S, donc de simulationnisme, et dans G, N, S, il y a le N pour narrativisme. Alors, qu'est-ce qu'on entend par narrativisme? Par narrativisme, en fait, c'est la motivation selon laquelle le joueur fait des choix dans la partie pour développer les thèmes et ou les enjeux narratifs. Donc, alors qu'est-ce qu'on entend par thème ou enjeu narratif? Alors, l'enjeu narratif, les enjeux narratifs, c'est les sujets de l'histoire. Donc, typiquement, ça peut être, un exemple, des héros veulent débarrasser la région d'un dragon.
Voilà. Le sujet de l'histoire, c'est ça.
C'est le sujet de l'histoire.
Une campagne.
Vous voulez jouer une partie de jeu de rôle qui raconte comment des héros donc, vont ou pas réussir à se débarrasser, donc à débarrasser plutôt la région d'un dragon. Voilà, donc c'est le sujet de l'histoire. Lorsque vous faites du narrativisme, eh bien, c'est que vous vous intéressez plus particulièrement à développer,
développer ce sujet-là. Et ne pas partir sur les côtés de ce sujet,
exactement.
Sauf à développer d'autres sujets, mais on reste dans des sujets de l'histoire, et on est guidé par cela pour faire nos choix.
C'est ça. Donc vous avez voilà, que lorsque vous rajoutez de nouvelles scènes, cela aide à construire l'histoire dans les sujets que vous avez choisis. Un autre type d'enjeu narratif, par exemple, ça peut être un homme annonce son homosexualité à sa famille. Est-ce que ça implique? Est-ce que ça va provoquer? Qu'est-ce que ça va provoquer? Voilà. Donc vous focalisez donc sur ce sujet. Un autre sujet, vieux comme le monde, j'ai envie de dire, c'est la lutte du bien contre le mal. Voilà, un sujet d'histoire tout à fait valable.
Pour du super-héros, du médiéval
fantasy. Pour du super-héros, ou même pour du truc beaucoup plus optimiste, parce que vous pouvez dire que la lutte du bien et le mal se retrouve donc
dans une famille,
lorsque vous allez vous faire vos corsets au champ. Et oui, c'est possible. Donc, j'ai parlé des enjeux narratifs.
Le thème, qu'est-ce que c'est? Puisque le narratif développe les thèmes et ou les enjeux narratifs. Donc, qu'est-ce qu'un thème? Un thème, c'est une idée ou un message ou une morale discutée par l'histoire. En gros, on pose une problématique, qui peut être donc une idée, un message, une morale, quelque chose qui pose une question, qui donne à discuter, et la partie va servir à discuter ça. Pas forcément de façon philosophique, profonde, juste ça va en parler. Donc des exemples de thèmes, faut-il sacrifier la liberté au prix du bien-être? Ou a-t-on le droit de se maintenir en vie au prix de celle des autres? Dans Vampire, par exemple. Si le principal sujet, enfin, le principal intérêt du narratif, et qu'on développe ça, c'est a-t-on le droit de se maintenir en vie au prix de celle des autres? On fait une partie de vampire narrativiste. Ou encore, allez-vous choisir d'être cynique ou passionné? Une question qui est posée et qui pourra se retrouver dans la partie au fur et à mesure. Donc ce sont des thèmes. Alors, on a dit thème en jeu narratif. Il peut y avoir plusieurs de chaque. Il peut y en avoir qu'un. Il peut y avoir un mix. Il peut y avoir tout ce qu'on veut. Mais il faut garder à l'esprit que forcément, plus il y a de thèmes et d'enjeux narratifs, et plus l'histoire est complexe, difficile à maintenir. Et de même que pour quelqu'un qui écrit un roman, ça peut être très difficile de se perdre dans les limbes, en digression. Donc, garder un ou deux thèmes, même un thème, un enjeu narratif, quelque chose comme ça. Développer des enjeux narratifs secondaires, mais surtout ne pas se perdre dans plein de choses partout.
Alors, une petite chose qu'on peut rajouter, donc, pour aider à distinguer quelque chose qui peut porter à confusion, c'est la différence entre les narrativistes, enfin les motivations narrativistes, donc c'est-à-dire vouloir construire l'histoire, et l'exploration de situation, donc le simulationnisme de situation. Alors on peut dire en première approximation, c'est la même chose. Hein, on développe une situation d'un côté, et puis dans l'histoire, on développe l'histoire, donc on développe les situations. Alors la différence principale, c'est que dans le narrativisme, on ne peut pas développer toutes les situations qui nous passent par la tête. Puisqu'en fait, chaque situation que l'on développe, c'est en fait dans le cadre de l'histoire. Il faut que ça serve l'histoire et que ça rentre dedans. Alors que dans l'exploration de situation, dans le simulationnisme de situation, c'est simplement ce qui vous intéresse, c'est comment la situation va évoluer, et peu importe qu'elle soit en rapport avec l'histoire jusqu'à maintenant, puisque de toute façon, ça, c'est une préoccupation ou secondaire ou inexistante. Donc si on reprend par exemple notre exemple de super-héros qui casserait un building et on se dirait, bah, tiens, qu'est-ce qui se passe là-dessus, simulationnisme de situation, bah, ça risque d'être assez peu narrativiste si vous avez une histoire qui, jusqu'à maintenant, faisait que votre héros
était altruiste,
cherchait à lutter contre son adversaire Némésis. On se demande bien ce que va faire donc cette destruction de building à ce moment-là. Donc, si vous avez trouvé une explication pourquoi elle rentre, dans ce cas, vous retombez sur le narrativisme, c'est-à-dire que vous gardez à l'esprit que c'est l'histoire à la fin qui va être construite, qui vous intéresse, que tout cela reste cohérent. Si vous vous intéressez simplement aux conséquences d'une situation, peu importe qu'elle rentre ou pas dans l'histoire, et bien vous êtes dans le simulationnisme de situation.
C'est cela.
Voilà.
Mais faut pas enfoncer le couteau! T'as tué ton camarade! C'est un entraînement, faut pas le faire en vrai! Non mais qu'est-ce que t'as fait? Je te préviens, c'est la dernière fois que je te l'ai un incident de ce genre, je veux pas que ça se reproduise, on est d'accord?
Bien, alors, après donc l'exposition de ces trois motivations dans la démarche créative, on va s'intéresser à un petit exemple, hein, pour voir comment elles peuvent intervenir. Donc on va prendre l'exemple d'un joueur qui voudrait que son vampire obtienne les faveurs du prince de la ville, donc le prince vampire. Donc par exemple, une motivation ludiste, c'est qu'il voie donc, le fait que son vampire obtienne les faveurs du prince comme un défi. Et donc ça va l'intéresser parce qu'il va se demander ben, qu'est-ce que je vais utiliser comme ruse, comme technique pour arriver à convaincre donc le prince vampire de m'octroyer ses faveurs.
Voilà. On peut avoir dans la même situation, avec le même but concret, un joueur qui a une motivation simulationniste. Dans ce cas, ce serait peut-être plutôt une simulationnisme de situation. Et donc, qu'est-ce que c'est sa motivation? Savoir comment le vampire, avec son propre bagout, donc pas le bagout du joueur, mais le bagout du vampire, comment le vampire donc peut manipuler le prince et voir ce qui ressort de cette situation et de cette intrigue politique, donc, avec cette obtention de faveur.
Et enfin, on peut voir une possible motivation narrativiste, ce serait que donc, le joueur serait plutôt intéressé par l'histoire qui découlerait du vampire obtenant ou essayant d'obtenir les faveurs du prince. Donc, lui, c'est plutôt sur l'histoire qui s'intéresse, et donc,
ce que ça peut apporter, ce que ça peut créer comme histoire aussi,
exactement.
Comme sous-sujet donc de l'histoire.
Voilà, donc ça peut être le thème principal ou un thème secondaire, mais c'est vraiment la cohérence
avec le thème
narratif qui l'intéresse.
Donc tous ces cet exemple donc, avec ces différentes possibilités de pratique donc, montre que juste en observant un exemple de pratique, une décision, on ne peut pas se faire une idée de ce qu'il y a derrière le choix du joueur et que alors, tout d'abord, seul lui peut savoir, Après, il y a des indices qui peuvent guider, mais le joueur doit se poser lui-même la question de savoir, quand il fait un choix, quelle est sa motivation.
Exactement. Alors, on va maintenant revenir un peu au cœur, je veux dire, de cette théorie GNS. Cette théorie GNS, elle présente des grandes motivations. Tout simplement pourquoi ? Parce qu'en fait, elle pose à la base que pour qu'une partie se passe bien, il faut que les joueurs soient d'accord sur le contrat social. Et être d'accord sur le contrat social, c'est autant être d'accord sur le jour qu'on va se retrouver, hein, ou
Kamen et Vixa,
ou important, dans quel univers on joue, hein, est-ce qu'on joue à Vampire ou à Shadowrun, ça fait la même chose.
Mais aussi.
Mais, exactement, ce qui est important, c'est de se demander, dans le contrat social, il y a les démarches créatives, et donc il faut que les joueurs se mettent d'accord sur les motivations qui vont les intéresser dans leur partie.
Exactement.
Et ça, c'est vraiment important. Alors, les conséquences, si lorsque les joueurs...
On ne se met pas d'accord.
Exactement. Donc, typiquement, ils ne parlent pas, ils n'ont pas vraiment réfléchi à leur motivation, donc ils n'ont pas réfléchi à la démarche créative qu'ils veulent employer, et donc ils ne connaissent pas forcément leur propre démarche créative, ou ils ne connaissent pas celle des autres, et donc tout ce beau monde n'est pas vraiment d'accord. Alors,
on va présenter des exemples
de mauvais fonctionnement.
Des faux fonctionnements aussi, parfois.
Et des faux fonctionnements aussi, parce que
ça peut fonctionner.
On pense que ça fonctionne, et les gens n'ont pas les mêmes motivations. Alors, un premier exemple.
Non, ton personnage ne ferait jamais ça.
Oui, mais c'est lui à faire pour gagner le combat.
Dans ce cas-là, le premier personnage était un personnage qui dirait c'est du simulationnisme, donc ton personnage, tu dois le respecter. Tu dois respecter ce qu'il fait, explorer, mais surtout pas l'altérer. Le deuxième, quant à lui, il dirait, oui, mais pour gagner le combat, c'est du ludisme.
Voilà.
Ils ne sont pas d'accord, et donc il y a un problème. La partie ne peut pas vraiment continuer bien, puisque si l'un fait un choix ou l'autre, de toute façon, si on fait l'un ou l'autre choix, il y en aura un qui sera déçu.
Exactement.
Deuxième exemple, j'aimerais bien que mon personnage drague ce PNJ.
Mais ça porte rien à l'histoire, hein, ce truc-là.
Le premier personnage donc veut explorer une nouvelle possibilité, veut faire donc du simulationnisme de situation, probablement.
Alors que le deuxième, lui, bah, il est plutôt intéressé par la cohérence de l'histoire. Et donc, cette scène le gêne parce qu'il ne voit pas du tout comment ça rentre, puisque ce jour-là, plutôt une motivation narrativiste.
Enfin, un dernier exemple de mauvais fonctionnement. Un joueur qui dirait, tiens, ce serait intéressant si on ne réussissait pas à vaincre cet ennemi.
Et l'autre, tu regardes, mais attends, t'es complètement dingue, on va quand même pas perdre exprès, quoi.
Voilà. Le premier joueur serait narrativiste, il dirait, ça peut vraiment apporter quelque chose d'intéressant à l'histoire, tandis que le second, clairement ludiste, il dit, on peut pas perdre exprès. Le but, c'est quand même de gagner, de montrer qu'on est capable de gagner ça.
Sinon, il n'y a plus de défi, c'est plus très intéressant.
Exactement.
Donc voilà, c'est plusieurs types de dysfonctionnements. Hein. On citait un peu dans notre introduction les problèmes qui pouvaient survenir à une partie. Ben voilà, des problèmes concrets qui pouvaient survenir à une partie. Et des problèmes qui sont simplement liés au fait que ce sont des joueurs avec des motivations différentes, donc des démarches créatives différentes. Donc, s'ils ne sont pas d'accord sur leur démarche créative, ils ne sont pas d'accord sur l'un des éléments du contrat social. Et lorsque les gens ne sont pas d'accord sur les éléments du contrat social, et que ça se voit, et ben c'est là que les problèmes peuvent démarrer.
Et tu as pointé un très bon point, tu as dit, et que ça se voit. Puisqu'effectivement, parfois, ça peut ne pas se voir.
Et voilà, c'est un peu le...
On l'a vu un petit peu dans l'exemple qu'on a cité avant de parler de tout ça, avec le prince vampire. Maintenant, un autre exemple. Trois joueurs peuvent vouloir gagner un combat. Tous les trois veulent donc, font les mêmes choix, mais pour des raisons différentes. L'un peut faire ce choix pour le défi, c'est-à-dire que c'est un très bon défi et que c'est l'occasion de montrer qu'il est une tactique, qu'il est intelligent au niveau de la tactique. Un deuxième joueur peut vouloir ça puisque son personnage veut la victoire. Donc ça paraît logique pour lui de vouloir la victoire puisqu'il veut explorer son personnage. Donc c'est du simulationniste de personnage.
Un peu de situation.
Et un peu de situation. Et le dernier, il peut dire parce qu'il pense que l'histoire peut être enrichie par cette victoire au combat et donc il veut cette victoire. C'est du narrativisme.
Exactement.
Ça ne se voit pas, les joueurs vont vouloir la même chose, ça va très bien se passer, mais comme on l'a vu dans les exemples suivants, à tout moment il peut y avoir une décision qui va les mettre en conflit.
Exactement. Donc voilà, ça c'est un peu la principale raison pour laquelle, bon, il faut quand même être réaliste, hein, il n'y a pas énormément de gens qui sont au courant de la théorie GNS, c'est un peu pour ça qu'on fait le podcast, pour qu'un maximum de gens la connaissent, et dans la mesure, la plupart du temps, les parties se passent quand même pas si mal, hein, même quand on se parle pas. Et ben quand elles se passent pas si mal, quand on parle pas, c'est que soit ben, un joueur un peu rogné sur ce qu'il voulait faire vraiment et a laissé les autres faire.
Il est insatisfait.
Il est un peu insatisfait. Et là, c'est typiquement les joueurs qui, ben, mystérieusement, au milieu de, à la fin de la partie, viennent voir le mage et faire « Ah putain, ça n'a pas été génial. » Je comprends pas, j'ai l'impression que ça s'est bien passé pourtant. Et soit ben, parce que ben, on, les problèmes ne se voient pas, parce que, ben, un coup de bol, les motivations différentes concordent. Et c'est vrai que souvent, parce qu'on a quand même pris l'habitude de certaines pratiques de jeux de rôle qui ont tendance à mélanger les trois éléments, bon, bah, il se trouve que ça ne se voit que sur des exemples précis où les motivations rentrent en conflit. Puisque c'est là le problème. Tant que les motivations s'accordent, bon, bah, finalement, effectivement, cet exemple de la victoire en combat, quand toutes les motivations s'accordent, bah, il n'y a pas de souci, parce que quoi que l'on veuille, bah, on sera satisfait. Le problème, c'est quand les motivations ne s'accordent plus. Et là, eh bien, il vaut mieux en avoir discuté avant, parce que sinon, on va plus trop savoir comment avancer.
Et l'exemple particulier, ce serait un MJ qui serait narrativiste. Il peut très bien vouloir que les joueurs perdent le combat.
Exactement.
Et les joueurs n'auront aucun choix, puisque la MJ aura décidé que les joueurs perdent le combat parce que c'est intéressant dans l'histoire. Dans ce cas, les joueurs ludistes, ils sont complètement frustrés.
Et ils se sentent complètement spoliés.
Spoliés.
Parce qu'ils ont dit, mais le combat est truqué, il n'y a pas de défi, ok, voilà. On n'avait aucune chance de gagner. Ça, c'est peut-être le genre de problème que vous avez déjà entendu, vous en souvenez.
Un joueur simulationniste, il peut dire, mais mon personnage est très fort en combat, on a battu des gens qui ne sont pas du tout forts en combat, et on a perdu ce combat. Pourquoi ? On n'a pas exploré la même fiction, je ne comprends pas la fiction que tu explores. Donc, il peut y avoir des problèmes avec cet exemple si le combat n'est pas gagné, parce que des motivations ne sont pas les mêmes.
Exactement. Alors, une autre conséquence de cette théorie, c'est qu'en fait, le système est important. Alors, on ne peut pas, et donc hélas, jouer sans problème à n'importe quel jeu avec n'importe quel système, parce que justement, le système, donc l'ensemble, on rappelle, hein, l'ensemble des techniques qui vont donc régir le déroulement de la partie de jeu de rôle, quoi. Donc ça peut être les techniques chiffrées, les règles, au sens le plus commun du terme.
Les règles de comportement, de processus, comment voilà. On définit, qui parle.
Donc ça peut être, je veux dire, ouais, donc, exactement, qui parle, donc les règles, on va dire, non chiffrées, hein, qualitatives, hein, mais importantes. Et les règles quantitatives, hein, le nombre de dés qu'on lance, où est-ce qu'on lance des dés, voilà.
Tout en ces règles ou avec des règles pas claires, la partie ne peut que mal se passer, en particulier si on n'a pas défini qui décide des actions des PJ. C'est un cas qui peut se passer dans beaucoup de parties considérées comme classiques. Le MJ décide de tout sauf des actions des PJ. Eh bien, il y a des systèmes de règles qui font que le MJ peut décider à un moment de dire « Non, là, ton personnage ne fait pas ça ». Ça peut poser problème parce qu'on ne s'est pas mis d'accord sur le système. On ne s'est pas mis d'accord sur qui décide des actions.
Alors,
en gros, le système est très large.
Le système, c'est très large. Et alors pourquoi le système c'est important ? Eh bien tout simplement parce qu'un système doit appuyer la démarche créative choisie par les joueurs. Donc, nous reprenons, les joueurs se sont mis d'accord sur le contrat social, sur tout le contrat social, et donc y compris sur les démarches créatives qui vont les intéresser. Donc voilà, en particulier là-dessus. Maintenant, ils vont se rendre compte assez rapidement qu'il serait de bon goût que le système qu'ils utilisent, alors ça peut être simplement hein, les règles de leur livre de jeu de rôle favori s'ils ne cherchent pas trop à réfléchir.
Et des règles implicites de jeu.
Et des règles implicites de jeu qu'ils utilisent, eh bien, conviennent à la démarche créative choisie, c'est-à-dire l'encouragent. Et c'est là qu'on voit qu'en fait, on voit que certains systèmes de règles vont encourager certaines motivations. En gros, le système de règles, c'est pas simplement décrire l'univers, c'est où il y a les actions. Ça, déjà, ça implique des choses. Et donc, tout système de règles favorise certaines démarches créative. Donc le bon système de règles, c'est celui qui encourage la démarche créative qui vous intéresse.
Dans la partie précise.
Alors, le problème c'est que quand le système ne favorise pas la démarche créative choisie, eh bien qu'est-ce qu'il peut y avoir ? Eh bien il y a des règles inutiles, parce qu'il y a des règles qui concernent des choses qui ne vous intéressent pas.
Et donc ils font perdre du temps.
Qui vous font perdre du temps, qui peuvent même carrément aller à l'encontre de ce que vous voulez tenter de mettre en place. Donc encourager des pratiques, encourager des motivations qui ne sont pas celles que vous recherchez. Alors donc là, carrément, vous vous retrouvez avec un système qui vous pousse à faire des choses que vous ne voulez pas obtenir dans votre partie.
En conflit, vous allez oublier des règles en plein milieu de la partie en disant « Non, je ne peux pas utiliser ça, c'est pas ma motivation. » Donc des règles qui ne servent à rien, pourquoi elles étaient là ? Alors, on se demande.
Alors, certains disent « Bon, mais c'est pas grave que si le système n'est pas bien fait, parce que bon, le MJ apporte les corrections dont il a besoin. »
Même pendant la partie.
Alors, déjà, bon, c'est bien parce que déjà c'est le MJ qui a toute la responsabilité. Donc, c'est déjà bon, ça serait discutable. Mais tout simplement, si le MJ, on va dire que c'est à lui de le faire, bon. Si le MJ doit faire des corrections, Que ce soit avant ou pendant la partie, ben, il perd du temps. Et ce temps, il pourrait l'utiliser ben, pour écrire sa partie, pour réfléchir à son... ce qui va se passer, écrire le scénario, hein, par exemple, souvent. Et ben, le problème, c'est que s'il doit perdre du temps à bricoler le système, parce que merde, il s'est rendu compte que ça marche pas, et puis, enfin même, il s'en rend pas compte.
C'est-à-dire que pendant la partie.
Pendant la partie, il fait, ah putain, zut, ça c'est pas bon, et il faudrait faire différemment. Voilà. C'est une perte de temps. Donc,
personne ne veut perdre du temps.
Les concepteurs de jeu devraient réfléchir à pourquoi ils ont intégré des éléments dans leur système en rapport avec une démarche créative. Donc c'est pour ça, c'est vrai que le système est important. Alors on peut donner quelques petits exemples peut-être de...
Oui, pourquoi pas des exemples. On peut d'abord insister sur quelque chose. Donc un système, on vient de le dire, ça comprend aussi les règles qu'il y a dans le livre de jeu de rôle, mais pas que donc, très important. Plus les règles posent des choses, et mieux c'est, puisque ça permet d'avoir des règles qui sont explicites et non pas implicites. Et donc c'est important pour un jeu, mais un jeu insiste sur une ou plusieurs démarches créatives, souvent une. Et donc, insiste sur, donc ça n'étiquette pas le jeu. Le jeu pousse à faire quelque chose, le système est donc adapté à quelque chose. C'est pas le jeu qui est comme ça, mais il est plus adapté à une ou plusieurs démarches. Ça, c'est un jeu qui est bien fait. Un jeu qui est mal fait peut te pousser à aucune, ou à tout en même temps. Ou,
c'est souvent ce qu'on trouve.
C'est souvent ce qu'on trouve dans en tout cas, les mainstream, les jeux faits par les grandes sociétés.
Alors, on comprend pourquoi. Hein. Les gros jeux commerciaux, en fait, même sans vraiment y réfléchir, encouragent toutes les motivations. Parce que comme ça, ils visent un maximum de joueurs. Et bon, ils tablent sur le fait qu'après, les joueurs font le tri. Et comme ça, ils n'ont pas trop à réfléchir. Et ils vendent leurs bouquins au plus grand nombre.
Voilà, ce que ne font pas les jeux plutôt indépendants,
ouais, c'est
qui eux généralement ciblent un truc très précis.
Ils sont un peu plus honnêtes, ils savent que de toute façon ils ne vont pas en vendre des millions, et que donc autant cibler un public précis et apporter quelque chose de bien fait pour ce public-là.
Exactement.
Donc voilà. Donc,
c'est pas tous les jeux mainstream qu'on vise. Hein.
Effectivement. Pas tous, ouais. Mais certains effectivement tombent dans ce travers-là.
Des exemples de système qui ne marche pas totalement, qui a des choses inutiles ou au contraire mauvaises. Une partie qui explore la perte d'humanité d'un vampire, eh bien en quoi elle a besoin de règles de combat précises. Ce qu'on a besoin de savoir pour un vampire qui perd son humanité, c'est s'il gagne le combat, s'il tue sa proie, sa victime tout simplement, mais est-ce qu'on a besoin de savoir avec quel coup il le fait? Ça peut être de la couleur, mais le système, pourquoi le prendrait-il en compte? Ce n'est pas important, les joueurs en grande partie n'ont rien à faire.
Alors un autre exemple, ce serait un système qui contiendrait trop d'options possibles, avec des résultats trop aléatoires, donc dans un combat, hein, qui empêcherait de monter une bonne stratégie. Alors là, on aurait un système, en fait, qui pousserait plutôt à un simulationnisme, donc d'univers ou de situation, hein,
système, tout simplement.
Ou de système. Et si le problème, c'est que si votre préoccupation, c'est une motivation ludiste, bah, ça vous fait chier, parce que vous pouvez plus monter une bonne stratégie, parce qu'il y a trop d'options, ou elles sont trop, les résultats sont trop aléatoires, et vous contrôlez plus rien. Et là, ça ne vous intéresse plus. Donc là, typiquement, le système n'est pas adapté à votre envie. Et enfin, un autre exemple, c'est que un système dont les désavantages, sur, par exemple, des désavantages psychologiques qui seraient déclenchés par des jets de dés, donc là, un système plutôt, on va dire, simulationniste
de personnages,
donc effectivement, dans le côté psychique et la manière dont les dérèglements psychologiques
peuvent apparaître,
voilà, c'est ça, en essayant d'être réaliste. Mais le problème, c'est que si vous, votre motivation, c'est que l'histoire progresse, bah, un tel système de règles, donc si vous êtes plutôt narrativiste, un tel système de règles favorisant plutôt une démarche simulationniste de personnages et dans un cadre précis, ne vous intéresse pas et vous pose problème.
C'est nul à l'histoire, c'est aléatoire.
Parce qu'effectivement, les trucs aléatoires vont faire que l'histoire va partir dans tous les sens et vous n'allez plus vous en sortir. Donc voilà, donc pourquoi on peut résumer tout ça par le système est important.
On va détailler maintenant des démarches créatives et en parler un peu plus précisément et voir les choses qui sont un peu plus complexes que ce qu'on a dit avant. D'abord, il peut y avoir des démarches qui sont d'un même type, les trois grands types donc, un même type, mais qui sont pourtant différentes. Et très souvent, ça ne fonctionne pas ensemble. Pourtant, on peut dire, deux joueurs sont simulationnistes, ça va forcément aller ensemble, et pas forcément.
Exactement. On a tout à l'heure détaillé les trois grandes motivations dans les démarches créatives, mais ça ne veut pas dire qu'une démarche créative, c'est une des grandes motivations.
On peut pas dire un joueur est simulationniste.
Et s'arrêter là,
être voilà. Narrativiste.
C'est narrativiste. C'est plus un peu plus subtil que ça. C'est un certain type de simulationnisme qui va être choisi, un certain type de narrativisme. Et éventuellement, on va voir... Bah, donc le, ici, on peut commencer à voir que... Prendre des exemples de démarches d'un même type, mais qui ne fonctionneraient pas ensemble. Pour bien montrer que vous ne choisissez, il ne faut pas choisir une lettre et puis ça y est, c'est terminé. Donc, c'est évidemment un peu plus subtil que ça. Donc un exemple, par exemple.
Par exemple, un joueur peut vouloir explorer son personnage, faire la vraie exploration de personnage, et un autre veut explorer le système de combat. Ils font tous les deux du simulationnisme, l'un du simulationnisme de système, l'autre de personnage. Ils ne jouent plus ensemble, les deux ne veulent pas la même chose qui ressort du jeu. Ce n'est donc pas, c'est donc un dysfonctionnement.
Exactement.
Et pourtant, c'est tous les deux du simulationnisme.
Exactement. Donc c'est des démarches créatives qui sont différentes, même si elles rentrent dans le même grand axe de motivation. Alors un autre type de démarche créative différente, ce serait un joueur qui voudrait construire une épopée, donc un narrativiste, et un autre joueur narrativiste, mais lui qui désire construire une romance. Alors le problème, c'est que...
Il y a beaucoup de chances que ça rentre en conflit.
Il y a beaucoup de chances que ça rentre effectivement en conflit. Donc, effectivement, on a deux démarches créatives narrativistes, mais qui sont différentes. Donc, il faut être plus précis, hein, une démarche créative, c'est pas simplement narrativiste, simulationniste ou ludiste. C'est un peu plus... Elle rentre dans ces motivations-là, mais il faut la définir un peu plus.
On a après un truc qui est un peu plus complexe, c'est qu'on peut avoir des démarches multiples, en posant des priorités sur ces démarches. C'est-à-dire qu'on met une priorité plus importante à être ludiste, même si on fait un peu de simulationnisme, on veut respecter un certain simulationnisme, mais on met des priorités. Ça veut dire qu'à tout moment, lorsqu'on fait un choix, on sait ce qui prime. C'est ça qui est important.
Donc, parce que c'est vrai que ce qu'ont tendance un peu à dire souvent les gens lorsqu'on leur parle de la théorie GNS, c'est qu'ils disent « Ah ben je comprends pas, parce que moi je suis à la fois ludiste, à la fois simulationniste et à la fois narrativiste. » Ils ont l'impression qu'il y a des choses intéressantes dans les trois grandes motivations. Et c'est tout à fait possible de suivre plusieurs démarches, enfin d'avoir plusieurs motivations, mais effectivement, ce qui est important, c'est que si ces motivations sont distinctes, c'est qu'elles vont avoir tendance à pouvoir rentrer en conflit.
Très souvent, on l'a vu juste avant.
On l'a vu juste avant. Donc, si vous avez une démarche multiple, c'est-à-dire que vous voulez faire du narrativisme, un peu de simulationnisme et un peu de ludisme, il faut, chose importante, vous avez le droit, mais il faut définir des priorités. C'est-à-dire que vous tenterez de satisfaire à ces trois démarches, mais vous inclurez une priorité lorsque les motivations rentreront en conflit. Donc, un exemple. Vous voulez par exemple produire une histoire de meurtre avec une résolution d'enquête. Donc voilà, un scénario de policier classique.
Il y a une histoire de meurtre, narrativiste.
Clairement une motivation narrativiste et une résolution d'enquête. Là, vous avez une motivation ludiste.
Voilà. Donc, ce qui compte, c'est d'avoir la priorité. Si on met la priorité sur l'histoire de meurtre, dans ce cas, à un moment, si une motivation ludiste nuit à l'histoire et fait que l'histoire de meurtre n'est plus une histoire de meurtre ou ne devient plus intéressante, alors il faut choisir le choix qui va faire bénéficier l'histoire de meurtre de quelque chose d'intéressant. Si on définit la priorité inverse, dans ce cas, il faudra être plus ludiste quand on est face à une résolution d'enquête.
Exactement. Donc à partir du moment où vous avez défini votre priorité, vous n'avez plus de problème, puisque vous pouvez tenter de satisfaire aux deux motivations tant qu'elles n'entrent pas en conflit, et ça peut tout à fait fonctionner, hein, puisque vous pouvez tout à fait avoir une histoire intéressante, alors qu'en plus, les joueurs réfléchissent franchement en toute honnêteté au problème, et essayent de comprendre, et ont une motivation ludiste. Mais si vous voulez, donc si vous voulez pas qu'il y ait de problème qui surgisse, il faut vous dire, attention, quand ça rentre en conflit, il faut que je sache quelle démarche a la priorité.
Un autre exemple, on peut respecter la psychologie d'un personnage, donc simulationniste de personnage, tout en produisant une belle histoire d'amour, donc narrativiste. Et dans ce cas, pareil, on définit une priorité. Si c'est l'un, eh ben, il faut faire primer l'un dans une décision. Si c'est l'autre, il faut faire primer l'autre. Ce qui compte quand on définit des priorités, c'est que, comme toute démarche créative, puisqu'en fait on peut dire que c'est une démarche créative qui est une multiple démarche créative avec priorité, c'est de se mettre d'accord entre les joueurs. Tous les joueurs doivent à un moment donné, à une décision donnée, être totalement d'accord et avoir la même vision sur les démarches créatives ou les multiples démarches créatives avec priorité à employer. C'est ça qui est important, même quand on fait des démarches créatives qui sont plus complexes, comme la priorité. Un dernier exemple,
et pour le coup qu'on retrouve souvent, c'est des joueurs qui veulent à la fois un combat réaliste, mais tactique.
Plausible, on peut dire.
Donc réaliste, plausible, détaillé, hein, je veux dire cohérent. qui rendent compte d'une certaine réalité. Donc là, on est clairement dans une préoccupation simulationniste. Mais en même temps, ils veulent qu'il y ait un défi tactique, qu'ils aient la possibilité
d'avoir des choix, mais pas trop.
Des choix,
pas trop d'aléatoires.
En gros, qu'ils puissent se sentir méritants s'ils ont réussi leur combat et que ce ne soit pas simplement laissé au. Au hasard.
Ou à l'univers lui-même.
Exactement. Donc, bah, c'est tout à fait possible, mais toujours pareil. À un moment, ça peut rentrer en contradiction, et il faut à ce moment-là avoir défini la priorité. Bon, on ne va pas réinsister là-dessus. Enfin, un dernier point. Donc là, c'est quelque chose que l'on défend. C'est
encore plus complexe.
C'est encore un peu plus complexe. On avance encore un peu plus dans la théorie. J'espère que vous suivez. Donc, on peut, en tout cas nous le pensons, changer de démarche créative selon les types de scènes dans la partie.
Comme toujours, si on s'est mis d'accord avec les joueurs et que tout le monde, au même moment, change de démarche créative.
Bien évidemment.
Ce qui compte, c'est qu'à un moment donné, tous les joueurs soient totalement cohérents entre eux et ont la même démarche.
Il faut, voilà, tout le genre est d'accord, toujours respecter le contrat social. Le contrat social, ça implique une démarche créative. Vous pouvez avoir des démarches créatives différentes selon les types de scènes, mais vous devez toujours être d'accord pour chaque type de scène de quelle démarche créative vous utilisez. Un exemple, vous pouvez décider avec vos partenaires de jeu d'avoir une motivation plutôt ludiste lors des combats, mais en dehors des combats, avoir plutôt une motivation narrativiste dans la mesure où vous voulez construire une histoire de chevalier. Voilà, c'est tout à fait possible. Lorsque vous serez en combat, vous jouerez cela de la manière la plus ludiste possible.
Vous oubliez totalement
l'histoire. Vous mettez entre parenthèses votre motivation narrativiste et vous vous intéressez à ce que vous cherchez à faire au mieux. En revanche, lorsque vous êtes en dehors du combat, vous réfléchissez plutôt à la cohérence de l'histoire, à comment... voilà. Donc ce qui fait que le résultat ludiste de votre combat sera de toute façon intégré dans votre histoire, que vous perdez ou gagnez, vous arriverez à rentrer. Donc voilà.
Alors, il faut faire attention, c'est pas forcément possible avec tous les projets de jeu, toutes les démarches créatives ne sont pas permises dans tous les types de jeux. Une histoire de chevalier qui aurait comme truc central les pertes et les gains, les victoires et les défaites des chevaliers, si le ludisme rentre en compte, forcément ça ne peut pas marcher, puisque le ludisme va faire qu'on veut gagner, que l'histoire le veuille à ce moment-là ou pas. Et donc ça peut rentrer en conflit. Donc, il faut bien voir qu'on ne dit pas que toutes les démarches peuvent aller ensemble et changer à tout moment, n'importe quand.
Il faut y avoir réfléchi.
Il faut y avoir réfléchi et voir si c'est possible,
exactement,
cohérent et que ça satisfait tout le monde. Un autre exemple.
C'est par exemple explorer les intrigues politiques d'une ville, mais vous allez être ludiste lorsque vous vous intéressez au débat entre les personnages. Donc lorsque vous êtes dans une phase de débat entre PJ et PNJ, donc typiquement entre maître de jeu si c'est le cas, et joueur, là par contre vous êtes ludiste parce que franchement, ça sera qui aura les bonnes idées et vous améliorerez si l'un a réussi à convaincre l'autre. Vous êtes ludiste. En revanche, ça c'est simplement dans les débats, le résultat, ce qui vous intéresse, c'est d'explorer
l'univers, les situations.
Exactement, de la vie. Un dernier exemple, c'est par exemple que vous essayez de construire une histoire, donc vous êtes plutôt une motivation narrativiste, mais de temps en temps, vous vous accordez des pauses dans l'histoire simulationniste, qui ne vont pas forcément aider à construire l'histoire, mais qui vont être intéressantes parce que vous allez pouvoir explorer l'interprétation de votre personnage, découvrir un aspect de l'univers. Voilà. Donc ça peut être intéressant parce que vous allez, par ce biais, relâcher un peu le rythme dans votre histoire.
Et surtout explorer l'univers et donc peut-être le trouver encore plus intéressant pour l'histoire.
Exactement.
Alors on peut faire un exemple très complexe donc, qui prend en compte les démarches multiples avec des priorités, les changements de démarche selon les types de scènes. On peut imaginer donc un jeu où on décide de faire des combats qui sont réalistes mais tactiques, donc avec une priorité sur le réalisme, mais qui sont quand même tactiques et donc permettent des choix ludistes. On peut imaginer qu'en dehors de ces combats, on essaie de faire une histoire de chevalier et que on met la priorité sur les simulations de personnages quand nos personnages discutent et donc essayer de rendre au maximum leur psychologie et leur façon de penser. Ça peut être donc une démarche créative de partie. Si tous les joueurs sont d'accord à tous les moments, quand les changements se font sur toutes les priorités, ça peut très bien marcher. Ce qui compte donc, c'est de se mettre d'accord, comme tout contrat social.
Je vais te faire écouter un petit Roger Troutman, tu vas voir, c'est de la bombe atomique.
certaines croyances, enfin, on va dire pas comme ça, certaines pratiques classiques que certains pensent qui sont les seules possibles ou les seules valables. Premièrement, le JDR, c'est un MJ qui fait un scénario et des joueurs qui contrôlent chacun un personnage dans l'histoire. C'est donc la vision très très classique du JDR, quasiment tout le monde est d'accord avec ça, et pourtant est-ce la seule ?
Alors, ce qu'on peut dire, c'est que non, c'est pas la seule, hein, il existe d'autres JDR, Choc par exemple, il n'y a pas forcément de
prosopopée pour le jeu français,
voilà, qui n'a pas 2 mètres de jeu. Alors, c'est pas quelque chose qui relève à proprement parler du GNS, ici.
Et comme on a parlé du système et que le système est important.
Exactement. Par contre, ça relève du contrat social, donc c'est tout simplement où vous vous mettez d'accord, et donc il n'est absolument pas obligatoire qu'il y ait un maître de jeu.
Ça ne rentre pas dans la définition du JDR.
Voilà. Donc ça, c'est typiquement une synecdoque. Donc voilà, on a défini le JDR, on n'avait pas quelque chose qui exclut les pratiques, même si effectivement la plupart des gens font cela, mais il y en a quand même d'autres qui ne font pas ça.
Bon, une deuxième pratique, une deuxième
croyance.
On ne doit pas faire de méta-jeu, uniquement interpréter son personnage. Donc si on a des connaissances différentes et des buts différents, il faut exclure les siens et ne prendre en compte que celles de son personnage. Qu'est-ce que c'est que ça ?
Bah ça, donc typiquement ici, il y a des... Par ça, un problème...
C'est du simulationnisme, hein.
Entre simulationnistes, effectivement.
Et donc, ça peut être du ludisme ou du narrativisme, de prendre en compte ses propres buts et ses propres connaissances. Mais toujours est-il que c'est rarement du simulationnisme, c'est même jamais du simulationnisme de prendre en compte ce qu'on pense nous, alors que le personnage ne le pense pas.
Donc voilà, donc on ne doit pas faire de méta-jeu, bah, ça dépend toujours pareil,
la réponse
adoptée,
de la démarche
créative qu'on respecte.
C'est pas une règle
simulationniste
immuable.
Ou ludiste narrativiste, si on est simulationniste, effectivement, ça risque de ne pas être génial. Par contre, ludiste narrativiste, on peut ne pas avoir peut-être tout à fait du tout ce problème. Alors, une autre croyance, c'est si des règles sont trop complexes, c'est qu'elles tentent d'être trop réalistes. Et souvent, on parle à ce moment-là de
règles simulationnistes. Alors que non, la façon dont on a défini le simulationnisme ne veut pas dire que les règles sont complexes, ne veut pas dire que les règles tendent d'être réalistes. Ça veut juste dire que les règles tentent de rendre de la cohérence interne à l'univers sans prendre en compte les désirs des joueurs. Ce qui veut donc dire que un jeu qui ferait 1d6 plus compétences contre la difficulté est autant simulationniste qu'un autre jeu qui utiliserait des tables, un milliard de modificateurs qui seraient mis dans le bouquin de règles, puisque ça ne rend pas le jeu plus simulationniste, ça le rend peut-être plus plausible, plus... il prend en compte plus d'éléments, mais si un jet d'un des 6 plus compétences contre la difficulté de l'action est fait, bah, il n'y a aucun désir du joueur qui est pris en compte, donc c'est simulationniste.
Alors une autre croyance qu'on essaie un peu de battre en brèche, c'est, bon bah on s'en fout du système de jeu, hein, c'est un JDR, hein, le MJ pourra toujours modifier en jeu ce qui gêne la liberté narrative.
Eh bien non, le système est important comme on l'a vu. Si un système va contre les démarches créatives de l'un ou l'autre, ça peut nuire à la partie, et c'est pas simplement en modifiant le système par petites bribes en situation que l'MJ pourra enlever ça, surtout parce que le cœur du système sera peut-être dysfonctionnel, et dans ce cas-là on peut pas modifier le cœur du système en pleine partie, et deuxièmement parce que ça lui fait perdre du temps. Le système c'est important, on s'en fout pas, parce que ça fait perdre du temps s'il n'est pas adapté. Une autre croyance, le MJ a le dernier mot sur tout, car c'est lui qui s'échine à faire le scénario, c'est lui qui décide du style, des parties et des règles.
Bon, bah alors là, typiquement...
Encore une fois, c'est pas exactement
c'est du GNS. GNS, mais c'est un vrai problème de contrat social. Le contrat social, c'est que tous les participants se mettent d'accord. Si c'est le MJ qui a seulement voix au chapitre, et les joueurs ont juste le droit d'être d'accord avec lui, bon, bah forcément, c'est un contrat social qui est déjà un petit peu limite. Il vaut mieux que tout le monde soit d'accord, que le MJ ait... Si le MJ veut décider, bah déjà, il expose ce qu'il veut faire, et après les joueurs
exposent son projet,
sa démarche créative, et les joueurs se disent d'accord ou pas avec la démarche créative. S'ils sont pas d'accord avec la démarche créative,
il faut revoir un peu le projet.
Il faut revoir ou voilà, faut pas jouer ensemble, ça risque de pas très très bien se passer.
Exactement, mais ça peut être, par contre ça on ne dit pas, ça peut être dans le contrat social de dire que le MJ décide en dernier lieu de la résolution d'une action. Ça peut être du contrat social.
Tout à fait possible.
Mais de dire que c'est lui qui a le dernier mot sur les règles, sur le style de partie, tout ce qui se passe, non. Ça, si les joueurs ne sont pas d'accord, ça peut poser de gros problèmes.
Exactement. Alors, on entend aussi que certains vont dire, par exemple, que mettre des règles sur ce que choisissent les PJ, c'est pas bien.
Voilà. Ce que choisit un personnage devrait être déterminé par ce que choisit le joueur, une espèce de libre arbitre du joueur sur son personnage.
Exactement.
Non, c'est pas que c'est pas bien, c'est que c'est du simulationnisme de personnage.
Voilà.
C'est un type de simulationniste de personnage d'ailleurs. On peut très bien dire que le simulationniste
de personnage passe pas par là,
serait de réfléchir à ce que voudrait son personnage et le faire. Mais on peut très bien imaginer un système de règles chiffrées, par exemple avec un jet de dés, pour voir ce que choisit un PJ dans certaines situations. Évidemment, ça rentre moyennement avec un système ludiste ou narrativiste. Bon, autre croyance, le MJ a fait un scénario complet, mais un joueur peut décider de faire ce qu'il veut faire à son personnage. Qu'est-ce que c'est que ça?
Alors,
le MJ a fait un scénario, donc ce serait plutôt un MJ narrativiste, on va dire, mais à côté, le joueur pourrait faire ce qu'il veut. Et ça, c'est impossible à croire.
C'est le truc impossible à croire, avant le petit-déj. Donc, bon, c'est un aspect un peu annexe à la théorie GNS, qu'on discutera éventuellement dans un autre podcast. Mais effectivement, on voit que cette croyance qui est très très répandue, en fait, pose un problème fondamental. Hein.
Si l'histoire est déjà déterminée par le MJ, comment les joueurs intégrer leur choix?
Exactement. Parce que dans ce cas, les choix ne sont plus dans l'histoire. Bon, ça c'est un petit problème dont on traitera éventuellement.
C'est annexe, mais c'est important.
Une autre fois. Alors, un autre truc qu'on entend, un optimisateur de règles, c'est pas bien, et donc il y a des joueurs qui ont été mis au banc de leur club de jeux de rôle.
Parce qu'ils avaient des gros billes.
Alors, est-ce qu'ils ont tort, ces gros billes?
Vous avez écouté tout le podcast, donc vous savez comme nous que ce joueur-là, ce n'est pas un gros bille, c'est un ludiste.
Exactement.
Et un ludiste, c'est tout à fait légitime, mais c'est mieux s'il joue avec d'autres ludistes.
Parce que si c'est le seul joueur ludiste dans une table de joueurs plutôt narrativistes, bah effectivement,
il va se faire taper sur
les mains. C'est pas un gros bill, et donc il vaut mieux qu'il trouve un autre groupe de jeu avec lequel il va pouvoir mieux s'épanouir.
Aux croyances, un joueur qui interprète trop son personnage, écrit des longs backgrounds, c'est un poseur qui veut se faire mousser, ce serait une espèce d'acteur raté qui voudrait, par le jeu de rôle, se faire des fans.
Eh bien, ici c'est simplement un joueur qui a une motivation de simulationnisme de personnage.
Très poussé, et donc il peut vraiment pousser son jeu d'acteur, en gros.
Donc il a tout à fait le droit de faire ça, mais à condition que cette motivation soit partagée par les autres, et qu'ils prennent également plaisir à explorer leur personnage. Évidemment, si c'est le seul à faire ça, et que personne n'est intéressé par cela,
ça ne marche pas.
Donc c'est vraiment important de discuter des démarches créatives qui vous intéressent avant une partie, pour justement pas vous rendre compte de ça en cours de partie.
Exactement.
Alors un dernier type donc de croyance, ce serait que un joueur qui interrompt tout le temps sous prétexte que ça se passerait pas comme ça dans l'histoire de Fantôme ou dans une histoire de comics ou un drame romantique. Ce gars-là c'est un chieur, c'est un masturbateur intellectuel, il nous énerve.
Une espèce d'artiste raté de romancier qui voudrait faire des histoires parfaites. Le JDR, on fait ce qu'on veut dans la partie. Eh bien non, ce joueur-là c'est un narrativiste. Il veut que l'histoire ait une cohérence. Il veut qu'il ressorte quelque chose d'intéressant et de qui traite d'un seul sujet, et non pas une espèce de récit de la vie des personnages, sans intérêt. Et ça, donc c'est un narrativiste. S'il est dans une table non narrativiste, ça pose problème.
S'il est dans une table de joueurs ludistes qui sont sur une bonne partie de donjon, effectivement, il va pas trop s'amuser, et puis...
Effectivement, l'histoire va pas être très intéressante. Ça risque pas d'être une épopée, ni...
Bon, voilà, donc... on a un petit peu, donc... essayer de voir comment ces croyances pouvaient poser problème ou pas. Effectivement, certaines se révèlent fausses puisque simplement elles ignorent simplement le fait que des joueurs peuvent avoir des démarches créatives différentes, et surtout, ce qu'on en répète, toutes les démarches créatives sont valables. Il n'y a pas de démarche créative plus intéressante. Les narrativistes ne sont pas des meilleurs joueurs que les ludistes ou que les simulationnistes. Ils ont tous le droit de jouer ce qui les intéresse. Ce qui est important, c'est qu'ils prennent conscience de ce qui les intéresse vraiment dans le jeu de rôle, et qu'ils en discutent pour effectivement trouver d'autres joueurs qui sont également intéressés par la même motivation.
Et tout le monde n'en sera que plus content.
Et pratiquer la partie de jeu de rôle au sein d'une motivation qui satisfasse à tous les joueurs.
Exactement.
Voilà. Donc,
Une petite conclusion.
Alors, nous, ce qui nous ferait plaisir, c'est que, simplement, prenez le temps de réfléchir à cela, de pas prendre ce qu'on dit comme parole d'évangile. On n'est pas des prophètes. On a essayé de réfléchir à la question dans la mesure où on a pu, mais on a sûrement encore des choses à comprendre. Donc, réfléchissez-y. Discutez-en si ça vous intéresse.
Réfléchissez à ce que vous voulez, par exemple, à une partie, avant une partie, ou après une partie, réfléchissez pendant une partie ce qui s'est mal passé, pourquoi ça s'est mal passé.
Exactement.
C'est sûrement un dysfonctionnement GNS.
Voilà, donc on espère que ça peut vous fournir des outils. Donc effectivement, quelque chose qui ressort de cette théorie, c'est que il faut discuter avec ses partenaires de jeu. C'est important.
Avant la partie.
éventuellement, quand il y a un éventuellement après quand c'est pas très bien.
Et quand il y a un dysfonctionnement,
peut-être. Et même parfois, pendant la partie, il faut remettre un peu les choses au point. Ouais. Mais attends, on est sur quelle démarche créative?
Pendant la partie, c'est
pourquoi
rare,
on fait ça?
C'est rare qu'on pose des démarches créatives pendant la partie. Ce serait
généralement, elles vaut mieux qu'elles étaient définies avant.
Voilà. Mais c'est mieux, peut-être dans la partie, parfois, de remettre un peu clairement pourquoi on a fait ça, comment ça peut s'inscrire dans la démarche créative. Si un personnage fait quelque chose, en quoi c'est narrativiste ça? Et ben, le joueur peut répondre et dire voilà, c'est comme ça que je vois le narrativiste ici.
Donc voilà, il faut
discuter.
Le mot de rôle,
c'est
discuter et c'est en parler et c'est pas laisser les choses non dites. Parce que beaucoup de joueurs ont peur de perdre la magie du jeu de rôle s'ils explicitent pourquoi ou non ils sont amenés à utiliser telle règle, prendre de telles décisions. Il vaut mieux
en parler avant
effectivement que la partie devienne n'importe quoi, que les joueurs se fâchent, que ça se passe mal. Non, il faut en discuter,
que les joueurs se fâchent pas, mais qu'il y en ait un qui soit dans son coin satisfaisant.
Et ça, c'est dommage. Donc voilà, parlez, réfléchissez à vos démarches créatives, comparez-les, discutez-en, essayez de vous mettre d'accord, c'est vraiment ce qui est important.
On a pas mal parlé du système. Ce qui ressort, qui est vraiment important, c'est qu'il faut définir tous les aspects du système. Donc non seulement il faut définir ce qu'on appelle classiquement un système de jeu, souvent dans un livre de jeu de rôle, donc, avec les petites modifications, règles maison et tout ça, mais il y a autre chose qui est important, il faut définir les aspects non chiffrés, pour que tout le monde soit d'accord. Comment je choisis les actions de mon personnage? Qui décide des actions de tel ou tel personnage? Qui décide comment il décrit telle ou telle chose? Tout ça, c'est des choses qu'il avait définies ensemble avant. Même si on dit on fait une pratique classique de jeu de rôle, et bien tout le monde n'est pas forcément d'accord sur cette pratique classique. On l'a vu, il y a beaucoup de choix différents qui peuvent être faits par les joueurs. Et donc dire on va jouer une partie classique de Donjons & Dragons, ça ne veut pas dire grand chose si les joueurs peuvent avoir des visions différentes.
Donc pour finir, eh bien, on va vous transmettre une adresse mail. Si vous avez n'importe quelle question, si vous avez envie de clarification, si vous avez des commentaires à faire dessus, voilà, donc on est prêt et on sera ravis de lire ce que vous voulez bien nous dire sur ce podcast, de répondre à vos questions éventuellement. Donc l'adresse,
c'est podcastgns en un seul mot @gmail.com.
Voilà.
Si vous envoyez des mails, on vous répondra. Où on fera ça?
Bon, on essaiera quand même de le faire. Hein.
Si on a le temps,
si on a des milliers de mails,
ce serait bien.
Ce serait bien. Mais on prendra peut-être un peu de temps pour répondre à tout. Mais en tout cas, voilà, on va essayer.
Donc, faire partager ce qu'on pense.
S'il y a des choses qui sont pas claires, voilà, s'il y a des questions, si vous contestez des aspects, des choses qui ne me pensez pas être d'accord, vous avez des arguments dessus, on est prêt à les écouter et on est prêt à en discuter. On peut finir également en citant quelques sites web
qui nous ont inspiré, nous ont fait comprendre la théorie et qui peuvent vous aussi vous faire réfléchir sur plein d'aspects qu'on a d'ailleurs certains n'a pas cité. D'abord, un site Places to Go, People to Be. Ou To Be, Places to Go, je sais plus.
Places to Go, People to Be, c'est ça.
Voilà. PTG, PTB. Vous tapez PTG, PTB sur Google. Logiquement, vous allez tomber directement dessus. Alors, il y a deux versions de ce site. Une version qui est en anglais, la version originale donc. Avec donc plein d'articles sur le jeu de rôle et une version en français.
Dire qu'est-ce que c'est que ce site, hein. C'est donc
des articles de réflexion, pas forcément de théorie, mais voilà, de réflexion sur le jeu de rôle.
Exactement. Donc c'est très varié, c'est très intéressant. Il y a beaucoup de gens plutôt intelligents qui ont écrit dessus. Et notamment, il y a notamment des articles parlant plus spécifiquement de théorie de jeu de rôle, et notamment des articles traitant de la théorie GNS, ceux dont on
souvent
s'est
par Ron Edwards.
Souvent par Ron Edwards, effectivement, ceux dont on s'est inspiré. Donc pour parler de ce podcast.
Il y a une version française de site.
Pour les anglophobes.
Les anglophobes. Et sûrement, surtout parce que c'est plus pratique de lire dans notre langue naturelle.
Plus vite.
Et donc, alors, ils ont traduit une partie des articles, une grosse partie. Souvent, ils ont choisi les articles
bien
les plus importants.
Pas tout, parce que c'est quand même un gros travail, hein, mine de rien, de faire la traduction.
Donc,
ils ont déjà fait un joli travail. Hein,
Et en particulier, il y a une bonne dizaine d'articles sur le GNS qui a été traduit.
En français.
C'est en grande partie sur ça qu'on se base. Mais aussi sur quelques articles de Ron Edwards en anglais qui n'ont pas été traduits. Les articles de Ron Edwards, donc, on peut trouver beaucoup de réflexions de Ron Edwards sur un forum anglophone, The Forge.
Exactement.
Qui est quand même
l'origine.
C'est là où Ron Edwards a commencé à parler de cette théorie GNS. Donc c'est un forum en anglais, comme je l'ai dit, et donc ça peut en recruter beaucoup. C'est un forum très riche. Il y a beaucoup de créateurs de jeux plus ou moins débutants. Il y a de la théorie de jeu de rôle à foison. Et vous pouvez trouver votre bonheur si vraiment vous voulez réfléchir comme nous sur le jeu de rôle.
Voilà, bon, donc on pourra conclure ce podcast donc en disant que, bon, on n'a pas encore tout détaillé. Il y a encore beaucoup de choses.
Socle GNS.
Voilà, on a plus parlé du socle GNS et donc de ce que ça implique. Il y a encore d'autres choses à dire. Bien, là, après, si ça vous plaît, écoutez, faites-le nous savoir par l'intermédiaire
de
l'adresse mail ou sur le forum de Ténébré, puisque ce podcast sera normalement hébergé.
Et si donc, ça vous plaît vraiment, si vous voulez vraiment
si vous en voulez, voilà, choses, si vous en voulez d'autres,
on
si
fera
vous
un podcast.
On parle d'autres choses, et bien effectivement, on en fera d'autres. Voilà, et bien on vous remercie pour cette écoute. On espère vous avoir pas trop ennuyé.
On espère vous avoir même intéressé.
On espère que vous en tirerez un petit quelque chose et que surtout ça vous donnera à réfléchir sur votre pratique du jeu de rôle.
Bye bye,
bonne partie. Amusez-vous bien.